Bonjour, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Olivier Delaveau. Vous venez de publier aux éditions du Rocher, Claude François, l'intelligence populaire en chanson. Oui, si on parle bonjour. De Claude François, c'est parce que cette année, eh bien, c'est le 45e anniversaire de la disparition de Claude François, Olivier Delaveau. Et à cette occasion, il y a toujours beaucoup de livres qui sortent des biographies, la face cachée de Claude François, la vie de Claude François, les amours de Claude François.
Et vous,
oui, il y a beaucoup de choses qui sortent. Mais vous avez pris de cette thématique plus originale, finalement, j'allais dire plus profonde, qui va vers le sens de l'analyse des chansons de Claude François et de la carrière finalement artistique de Claude François. C'est de cette manière que vous lui rendez hommage. Puis c'est finalement aussi ce qui nous intéresse. C'est pour ça que vous l'avez appelé l'intelligence populaire en chanson. D'abord, vous commencez le livre par décrypter, par nous rappeler ce qu'était un peu le paysage musical à cette époque. Il était assez diversifié et puis on était aussi au triomphe du rock. On sentait que ça allait triompher. Et Claude François, qui avait commencé finalement dans la... On va se qualifier, ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui, dans la variété de l'époque, a été influencé par le rock.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, il a été influencé par le rock, la pop, la country, mais bon, pour tout dire, par les musiques d'outre-Manche et d'outre-Atlantique. Mais au début, d'outre-Atlantique, parce qu'il y avait le jazz et la country. Et lui, au départ, il était batteur de jazz. Hein. Quand il était plus jeune, il tapait sur les tarboukas dans les rues d'Ismaïliade avec ses petits copains égyptiens. Il a vraiment appris le rythme dans les ruelles d'Égypte. C'est fondamental. Il est devenu batteur de jazz après, en France, à Monte-Carlo. Il a travaillé beaucoup, le conservatoire, pour arriver aux plus grands orchestres, des orchestres très exigeants en qualité. Et en fait, c'est la bonne école. Moi, en tant que musicien à une époque, à la fin des années 60, tout ça, on jouait partout, mais dans des trucs très bien ou des trucs pas possibles, c'était la bonne école de jouer. C'est comme ça que les Beatles sont arrivés à se casser la voie à Hambourg. Ils n'ont pas arrêté de faire de la scène à Hambourg dans les endroits pas possibles, mais c'est une école terrible, mais en même temps, c'est la meilleure école. Et aujourd'hui, on fait croire aux jeunes qu'ils peuvent devenir John Lennon ou Elton John en un quart d'heure. C'est l'escroquerie est un scandale. Voilà. Je veux dire, ces gens de la fin des années 50, ils ont travaillé énormément. Ils ont été à l'école de la scène avant tout. Mais Claude, surtout quand il est arrivé, dans le paysage musical en 62, il y avait des gens qui étaient là en place. Alors, pour parler que de sa génération, moi, c'est ce que j'appelle la génération salée des copains et des yéyés, entre guillemets, parce que les yéyés, ça vient d'un truc d'Edgar Morin. Je vous expliquerai très vite pourquoi. Mais quand il est arrivé là, il y avait deux artistes principaux qui étaient déjà là. C'est Richard Anthony, qui a commencé en 58 avec Peggy Sue, du pionnier du rock Buddy Holly, et Johnny Hallyday, qui est arrivé 2 ans plus tard. Quelque part, le pionnier du rock en France, c'est Richard Anthony, et c'est une grosse discussion que j'ai avec des tas de musiciens. Alors, bien sûr, l'atout d'Hallyday, c'est l'atout physique. Richard, il était appelé le Tino Rossi du twist, parce qu'il était un peu rond, bon, bref. Mais il a fait les meilleures adaptations, il avait une voix, il allait à Abbey Road, il avait carte blanche pour enregistrer à Abbey Road. Je vais vous dire pourquoi je parle de Richard, c'est parce que, contrairement à ce qu'on croit, le vrai modèle de Claude François, c'était pas forcément Hallyday, c'était bien Richard Anthony. Et par la qualité des adaptations et des arrangements. Alors il y avait ce que j'appelle moi le triumvirat des yéyés en dès 62 avec Anthony, Hallyday et Claude François. Et tous faisaient des adaptations, parce qu'on dit souvent, oui, Claude François, il a fait des adaptations, il singeait les chansons américaines.
J'allais y venir, oui.
C'était mal écrit, c'est un scandale. Pas du tout, ce qui est un scandale, c'est cette désinformation. Il a eu ce que j'appelle, moi, des paroliers littéraires, des très grands paroliers comme le trompettiste de jazz Gilles Thibault, qui a écrit plus tard Que je t'aime pour Hallyday et Ma gueule pour Hallyday, mais qui a écrit Par amour, par pitié pour Vartan.
Il y a eu Vlyn Buggy aussi.
Et qui a co-signé comme d'habitude. Comment ?
Il y a eu Vlyn Buggy, non ? Qui a travaillé avec...
Et alors, Vlyn Buggy était sa première parolière au début. Quand elle a écrit Belle, 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 au début, ça s'appelait Rien, 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 qui était destiné à Kim Blondeau. Et Claude, quand il est arrivé chez Vlyn Buggy, il a dit, écoute, voilà, Rien, 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 c'est un peu négatif et ça sonne pas bien. Faudrait un truc qui sonne comme les cloches. Et les cloches, en anglais, comment ça se dit ? belle. Et l'autre, belle, belle, belle. Paf, Lynn Buggy était terrassée. Elle a dit, OK, le gamin qui arrive là, il faut faire attention, c'est un sérieux client. Et effectivement, là, on a commencé à le prendre au sérieux et il a été très, très haut. Et ce que disait le journaliste de Salut les copains à l'époque, Eric Vincent, car à l'époque, Salut les copains, le journal de Philippe Aki avait des journalistes très sérieux, très informés, très cultivés, qui ne se foutaient pas du monde comme beaucoup aujourd'hui. Et il disait que François, le nouveau qui arrive, il a un objectif, se hisser au niveau d'Hallyday et Richard Anthony. Et quand, à l'époque, on disait ça, ça voulait dire beaucoup de choses. Donc, c'est comme un jeune qui arrive aujourd'hui qui veut se hisser au niveau de Goldman, quoi, ou de Cabrel.
Alors,
voilà, la comparaison, en gros.
Justement, vous avez fait allusion à cela. On a beaucoup caricaturé Claude François en disant il se contente de faire des reprises. Vous dites dans le livre, dans ce répertoire, c'était quand même entre 1962 et 1966 à quasi 100% d'adaptation de chansons étrangères. C'est ce que vous dites dans le livre. Et puis après, vous soulignez que la carrière de Claude François a finalement connu des périodes très distinctes de l'histoire. Histoire mêlant les mélodies originales françaises et les œuvres issues d'une adaptation. Et on s'aperçoit finalement, quand on fait le tour d'horizon de tout cela, que tout a été un succès, que les deux ont bien marché.
Ah, il y a des originaux qui ont très bien marché. C'est marrant parce que le premier original français chez Claude, c'est Pauvre petite fille riche en 63, d'après sur une musique d'Hubert Giraud. Et ce qui se passe, c'est que les accords, c'est Do, La mineur, Fa, Sol, et c'est un peu l'anatole anglo-saxon. Donc à l'époque, des gens qui ne regardaient pas de près les signatures en dessous de titre, ils disaient, tiens, encore une adaptation. Or, pas du tout, c'était un original français. Et après, l'original qui est venu après, c'est très loin dans le temps, c'est Je sais. Et puis, mais combien de temps? Mais il n'y en a pas eu beaucoup. Mais c'est après 66 que ça a commencé un petit peu à faire un peu plus originaux français. Mais c'est vrai, vous avez raison, tous ont eu des succès. Mais il y a eu aussi des périodes de creux. La grande période de creux pour Claude, c'est entre fin 69 et début 71. Mais ça vendait quand même bien. Mais disons que quand sont arrivés des gens, déjà en 66, comme Dutron, Ponnareff et Antoine, ça a bousculé un peu dans ce que j'appelle le Landerneau des yéyés. Mais bon, Claude François tenait la route très bien avec Johnny et Richard. Après, pour Richard, qui est passé à autre chose, ça allait bien pour les deux Isoles. Simplement, c'est l'arrivée de Ponnareff et Julien Clerc qui a un peu bousculé vraiment les choses. Et néanmoins, ils sont restés très hauts. Après, il y a eu l'arrivée de Sardou en 71. Et là, Sardou, pour moi, c'est ce que je dis dans le bouquin, il n'est pas dans la sphère, salut les copains, rock'n'roll, pop musique. C'est un artiste de variété de haut niveau, par exemple, comme pour Serge Lama. Mmh. Mais Sardou, pour moi, n'est pas dans la sphère du rock'n'roll et des yéyés. Ça n'a rien à voir. Et après, on les a comparés, Sardou et Claude François, le nouveau concurrent et tout. Mais bon, c'était pas vraiment comparable. Simplement, il y a eu quand même des reprises dans les années 60 et 70 de Claude François qui sont passées inaperçues parce que ça venait de groupes ou d'artistes inconnus en France. Et par exemple, quand il adapte un morceau du Steve Miller Band qui s'appelle Hey Oh, c'est impossible en venant de Going to the Country, personne n'est au courant de ça. Steve Miller Band, le monde du rock pur et dur adore le Steve Miller Band. Quand je leur dis que Claude François a adopté ce titre-là, des types, ils sont verts. Soit ils sont furieux parce que c'est un scandale que Claude le fasse, soit ils trouvent ça génial que Claude François, à travers ça, fasse connaître le Steve Miller Band. C'est pareil, il a adapté en 66 un truc des musiciens de Buddy Holly qui s'appelle J'ai joué et puis j'ai perdu. Quand on dit que ça vient des musiciens de Buddy Holly au départ, les gens n'en croient pas leurs oreilles, si je puis dire. Donc, à la fois, c'est très paradoxal, mais très qualitatif. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un répertoire qui est traversé par des courants musicaux différents, mais l'ensemble est cohérent.
Alors,
c'est important. Et musicalement, c'est très haut niveau, au niveau des arrangements.
On va revenir là-dessus. Tiens, justement, je rebondis sur ce que vous dites. Vous évoquez cette perfection dans le domaine des arrangements. Mais il faut savoir que dans son enfance, Claude François a baigné aussi avec de la musique arabe classique.
Je vous ai dit au début, oui.
Oui. Est-ce que ça l'a influencé dans cette perfection?
Ce qui l'a influencé beaucoup pour la qualité de... Il avait l'oreille, c'est la batterie, l'école de batterie, dans la rue, dans des rythmes, et puis au conservatoire à Monte-Carlo, je ne sais plus, à Monaco. Et en même temps, Il y avait la rage d'arriver, c'est-à-dire il était en danger, son père voulait pas qu'il fasse ce métier, son père est mort sans que le père et le fils puissent se réconcilier, ça a été terrible pour lui. Quand ils sont arrivés à Paris, quand ils se sont fait jeter par Nasser en 56, ce qui est drôle, c'est qu'en 55, Nasser, le décor, le décor pour championnat de course de fond à pied. Il a eu une médaille quasi olympique, parce que Claude était un très grand coureur de fond, ce qui explique beaucoup les performances sur scène après. Hein. Et un an après, jour pour jour, l'Égypte fout les Français dehors de manière extrêmement brutale. Donc ils se sont retrouvés au Havre dans le froid, dans la misère. Ils sont arrivés à Paris, des amis les ont abrités. Après, ils sont descendus dans le Midi dans l'espoir de retrouver un peu le soleil d'Égypte et en même temps de retourner en Égypte, mais ça n'a pas pu se faire. Et donc là, il a fait un peu de tout, employé de banque, livreur, standardiste dans un hôtel. Et puis, on mangeait à même le sol du pain dur trempé dans l'huile. Enfin, c'était la misère. Et si vous voulez, après, il s'est déchaîné en France parce que retrouver la misère par un échec professionnel, pour lui, c'était pas possible. C'était hors de son entendement. Il fallait même pas y penser une demi-seconde, quoi. Donc c'est pour ça que c'est vrai qu'il était très exigeant, parfois infernal. Moi, je connais des gens qui ont bossé avec lui. Il est infernal, c'est pas tenable, mais on comprend et c'est un type c'était un type pas mal. C'était un type très honnête, très dur, très exigeant, souvent très cassant. Mais moi, je préfère un type comme ça qu'un type très aimable qui vous passe la main dans le dos et qui vous fait des farces par derrière.
Justement,
Vous
il y a
voyez?
cette référence dans le livre, à un moment, avec cette phrase, l'artiste paye de sa personne, il a en plus une conscience sociale qu'aurait pu et même dû lui envier certains donneurs de leçons de gauche qui n'éprouvaient qu'aversion pour ce chanteur et ce public. Est-ce qu'il y a quelque
Ah
chose,
oui,
finalement, de politique chez Claude François, contrairement, on le voit même maintenant, tous ces gens qui donnent des leçons de morale sur les plateaux de télévision, qui
ça vous
chantent
l'avez
pour les
dit.
Restos du Cœur, mais qui en même temps veulent
Aïe, aïe,
descendre
aïe.
dans des hôtels 5 étoiles, quand ils sont en tournée pour les Restos du Cœur, que c'était pas du tout ça, Claude François. C'était.
Bah non, c'est ce que j'ai au début.
Il y avait
Il est
quelque
pas
chose d'assez
détenteur d'un
politique.
lien
Est-ce qu'il y avait
social.
un clivage politique chez les pros et les anti-Claude François, j'allais dire,
Je
un peu
pense.
comme chez Sardou?
Attendez, moi je connais des. J'étais. Je sais pas, je pense que c'est plus clivant chez Claude François, contrairement à ce qu'on croit. Et en fait, c'est pour ça qu'il dit que je parle d'un rebelle astucieux et de contre-culture, parce qu'en fait, il remet l'église au milieu du village, Claude. C'est-à-dire que, franchement, quand on entend les chansons, quand on voit comment il vit, et quand j'entends ce qu'on dit sur lui, même des gens du métier, enfin, les gens du métier aujourd'hui, la jeune génération, vraiment, moi, je ne veux pas passer pour un vieux machin, même si je suis très content d'être un vieux machin, c'est pas le problème, mais les gens aujourd'hui qui ont moins de 45 ans, ils n'ont rien compris. Hein. Mais rien de rien. Ils ne savent rien.
Pourquoi? Parce qu'ils ont l'image de Claude François
Mais non, mais c'est
Alexandre.
partout, que ce soit dans le cinéma, le théâtre, la chanson, les arts, ils ne savent plus rien. Il y a eu des maillons culturels qui ne sont plus là. Mais quand même ils ne savent rien de très grands artistes comme Décriveurs, Charles Anthony ou Adamo. Moi, j'ai fait un livre sur Brel aussi. De Brel, ils ne connaissent que trois chansons. Tout le reste, les grands chefs-d'œuvre, ils ne les connaissent pas. C'est terrible, terrible ce qui se passe culturellement. Donc, mais j'ai choisi de travailler sur Claude François parce que c'est un type intéressant du point de vue professionnel, mais en plus, entre guillemets, c'est un peu la tête de turc des intelligentsia. Et donc, j'ai fait un peu exprès de faire ça sur lui.
L'anti-Télérama,
Donc,
quoi, on imagine.
l'anti-Télérama, l'anti-Libé, c'est-à-dire que quand Libé titre le lundi matin où il est mort que le François a volté, c'est-à-dire qu'en fait, la gauche avait perdu les législatives en le 11 mars, non, le 12 mars, le dimanche 12 en 1978. Donc, quelque part dans la symbolique, la gauche et les gens de Libé et les universitaires omniscients, propres des pieds, qui savent tout, qui donnent des morales à tout le monde, mais qui méprisent totalement les gens, ça se voit aujourd'hui. Claude François a volté, c'est-à-dire que c'est un peu une vengeance, un peu minable. Un chanteur est mort, il ne l'aime pas, il lance une grosse vanne. Et puis bon, bah, ils se vengent de la défaite des législatives. C'est un petit peu, voilà, maintenant.
C'est intéressant tout ça, avec tout ce
Bah
recul, vous
ouais.
voyez, mais
Mais regardez quand même
avec
Claude
cette
François.
histoire propre de Claude François, viré par Nasser, donc qui a connu finalement en parallèle la tragédie qu'ont connu les pieds noirs moins d'une dizaine d'années plus tard, en 62, lui, c'était un peu plus tôt. Aujourd'hui, il aurait eu 80, presque 90 ans. S'il avait commenté l'actualité politique aujourd'hui, je pense qu'on serait marré là, hein?
Bah,
Non?
je pense à lui et à Coduz pour
Il
ça,
serait
et
sur
surtout à faire
CNews,
des
je
preuves.
pense, tous les jours, en train sur les plateaux.
Ouais, d'ailleurs, pour l'instant, j'attends que. Et il faudrait parler plus de Claude à CNews, là, parce qu'il parle que de Sardou, c'est très gentil, mais je considère que Claude, à côté de Sardou, c'est un type beaucoup plus astucieux et, entre guillemets, beaucoup plus inquiétant pour le système.
C'était quelqu'un d'un plus inquiétant sur le système. Moi, ce que je trouve
Alors,
aussi. Oui, je vous laisse.
oui, pardon, il y a eu des titres intéressants. Quand on entend Ce monde absurde en 65, c'est le premier titre contre la guerre froide, en gros, et la bombe atomique. Sur le même 45 tours, il y a Jordi qui a un titre contre la peine de mort. Le même thème contre la peine de mort avec les mêmes ambiances médiévales, c'était Deux balles de l'as de Paul Naref 2 ans plus tard. Et en j'en passe plein d'autres qui sont extraordinaires, mais en 75, il y a un titre qui s'appelle Où s'en aller? Et c'est vraiment, aujourd'hui, les chanteurs qui sont les chantres de l'écologie, ils font pas mieux, hein. Où s'en aller, c'est où fuir, comme l'écrivait Flaubert, hein, dégoûté du monde. Hein. Il y a un côté comme ça. Hein. Où s'en aller, ça vient de Reggaeton de Andy Fairbrother-Lowe, qui travaille aujourd'hui de temps en temps, qui a travaillé longtemps après avec Eric Clapton. Et c'est des chansons qui sont un peu passés inaperçus. C'est-à-dire que quand il y a un chef-d'œuvre ou qu'il y a un grand titre, ça ne passe pas la ligne Maginot de la censure médiatique.
Quand on pense à
C'est-à-dire que
Claude
Claude
François,
François
oui.
chante un truc intelligent, c'est inacceptable. Alors le seul truc où il a été un peu réhabilité, et là c'est son dernier 33 tours, j'ai bien dit 33 tours et pas album, dans le livre, hein. Et en fait l'histoire c'est que et dans Podium, le sosie qui fait Claude François, à la fin est réhabilité, il retrouve son statut de père et de mari, parce qu'il abandonne le monde Claude François, qui pour l'écrivain et pour le cinéaste est un monde de pauvres gens. C'est le monde d'une France profonde, méprisée, une France périphérique piétinée, réduite en bouillie par les gens, par une intelligentsia
La
parisienne.
France des beaufs
Et
qui aime Claude François, quoi.
attendez, attendez, le sosie est réhabilité quand il revient vers sa femme parce que il va vers l'univers de Julien Clerc. Ah, Julien Clerc, formidable, Julien Clerc. Ouvert à l'autre, bien pensant, le lien social, voilà. Et si vous voulez, quand
Vous
il a
nous
ensuite
décryptez
fait.
cette symbolique, c'est fabuleux, hein, ça, d'avoir
Oui, alors
ces.
quand vous voyez sur le dernier 33 tours et non pas album, je t'en foutrais les albums, que les grands succès écrits par Odagil, Magnolia Forever et Alexandrie, il y a une espèce de réhabilitation. Ah oui, non, c'est bien, vous avez vu le dernier disque de Claude François, c'est pas mal. Ah oui, c'est Rodagile. Ah, tout d'un coup, il y a une espèce de réhabilitation sourde. Vous voyez? Alors, il y a la même dans Podium après. Il va vers Julien Clerc. Et son dernier disque, et c'est Rodagile, le parolier emblématique de Julien Clerc. Donc, si vous voulez, c'est absolument insupportable, cette mentalité. C'est pas possible. Moi, je parle d'un grand musicien. Moi, je suis trop petit. J'ai fait plein de trucs plus jeune. Je sais ce que c'est que la scène, la musique. Et croyez-moi, les vrais professionnels, que ce soit les réalisateurs de télé que j'ai connus dans le temps, parce que tout jeune, je suis rentré à l'ORTF, j'ai eu de la chance. On pourrait plus faire ça aujourd'hui. Quand j'entends les grands producteurs, des grands réalisateurs, des vrais musiciens, des types, jamais ces gens-là ne dénigrent Claude. Ils sont tous là à dire, ouais, alors celui-là, une tête de larme, mais alors quel pro, quel génie. Et puis sur scène, qu'est-ce que ça déménage? Moi, j'en ai vu beaucoup sur scène. Et écoutez le 33 tours du concert au Forest National en 74. Mais c'est énorme. Et écoutez, si vous pouvez, certains passages de ces passages sur scène au théâtre de la Porte Saint-Martin en 69, c'est à tomber par terre. À un moment, moi, j'écris que quand on écoute ça ou quand on voit ça, 3 semaines après, on dort toujours pas. En revanche, moi, j'ai vu Hallyday et les Stones au Palais des Sports à l'époque. Le lendemain, je faisais la sieste, un peinard.
Alors,
C'est-à-dire que les autres à côté, c'est les écureuils, quoi. Ils sont gentils, mais en soi, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. C'est pour ça que 45 ans encore, il est toujours là. Parce qu'il y a des gens qui ont la mémoire quand même.
Justement, je voulais terminer là-dessus. Je rappelle pour les auditeurs qui viennent nous rejoindre, je suis avec Olivier Delaveau qui signe Claude François, l'intelligence populaire en chanson, puisque cette année, bien, c'est le 45e anniversaire de la disparition de Claude François. Justement, on a parlé, on a cité plein de noms, on a cité plein de noms d'artistes, etc. Mais regardez aujourd'hui, et c'est ma question finalement, chez les jeunes qui n'ont pas connu cette époque. On va prendre tous les moins de 45 ans, même des jeunes de 20 ans, 25 ans. Je fais régulièrement des sondages, puisqu'on fait de la radio pour la programmation musicale. J'aime bien savoir ce qu'aiment les jeunes de 30 ans. Et j'essaye de voir ce qu'on appelle les golds, hein, de la chanson française, ce qui est ce qu'on peut passer ou ce qu'on ne peut pas passer, vous voyez, dans ce calendrier de radio. Eh ben, y en a toujours deux qui ressortent, c'est France Gall et c'est Claude François. Il n'y a pas de problème. Tous les jeunes de 20 ans connaissent Claude François et France Gall.
Ça, c'est formidable.
Comment expliquer cela qu'ils aient
France Gall, je suis étonné parce que moi, j'aurais plus pensé François Zordi ou Sheila, mais bon, pourquoi pas France Gall.
Oui, je mettrais François Zordi.
Je sais pourquoi. C'est peut-être parce qu'en fait, elle a travaillé avec Michel Berger. Et Michel Berger, par rapport à Véronique Sanson, France Gall, il y a une prolongation dans les générations d'aujourd'hui.
Et puis aussi, parce que dans beaucoup de boîtes de nuit, dans des établissements branchés, vous avez tous les remix faits par des DJ de chansons de France Gall, les Desbranches, les Françoise Hardy aussi, tous ces artistes sont remixés, vous voyez, aujourd'hui.
C'est vrai que beaucoup plus France Gall, en revanche. Hein, c'est marrant.
Alors comment expliquez-vous que Claude François soit finalement le seul dans tous les mariages?
Peut-être qu'à un moment, il y a la vraie qualité, c'est comme une bonne paire de chaussures, la qualité dure longtemps. Vous voyez, une bonne paire de chaussures qu'on achète très cher, 20 ans après, vous l'avez encore au pied. Hein. Est-ce que Claude François, c'est pas un peu ça, sans vouloir faire une comparaison un peu bizarre, il y a une transmission d'une qualité, du mythe d'une grande qualité, et quand les jeunes voient un type, quand il y a des diffusions aujourd'hui avec les Claudettes derrière et tout, ça, on peut dire que ça l'a servi pour la prolongation, mais moi, entre guillemets, à l'époque, et un peu après, même dans certaines sphères encore aujourd'hui, ça le dessert. Ah oui, c'est le type avec ses paillettes et Claudettes, bon, mais franchement, je veux dire, moi, vous l'avez sans doute vu dans le livre, il y a une dizaine de titres qu'on a étouffé, 350, qu'on occulté complètement de très grandes chansons. Et moi, quand j'avais parlé il n'y a pas longtemps.
Malgré lui, ça le rendait furieux. Ça le rendait furieux, c'est le seul souvenir que j'ai gardé.
Mais quand j'ai parlé à des confrères à vous de certains grands numéro 1, comme Quand un bateau passe en 65, j'y pense, et puis j'oublie en 64, Mais quand le matin en 67, et j'en oublie, hein, Qu'est-ce que tu deviens, J'attendrai, tout ça, qui ont été des grands numéro 1. Quand on parle des tubes de l'été aujourd'hui, il y a des émissions des tubes de l'été, jamais il y a Claude ou même Richard Anthony qui a eu aussi des numéro 1 à l'époque. Je veux dire, on parle toujours des Aline et Hervé Villard, je veux bien qu'ils aient été numéro 1, mais ils n'ont pas, par rapport à Claude François, en 65, c'était Quand un bateau passe, numéro 1. C'était pas Christophe ou Hervé Villard. C'est de la désinformation.
Peu importe, Olivier Delaveau. Aujourd'hui.
Non, d'accord, mais on occulte complètement. Parce que quand je fais une programmation et que je veux mettre les numéros 1 de l'époque en avant, on me dit ah ben non, on connaît pas. Puis il faut mettre les Magnolia, puis Alexandrie et Rio. Ah bon? Mais justement, c'est des bonnes chansons, mais il n'y a pas que ça.
Vous avez
c'est
dit
ça,
que si Claude François, m'avez dit que si Claude François est toujours actuel aujourd'hui, c'est parce que d'abord il y a la qualité.
Oui, c'est un paradoxe.
Et est-ce que aussi, parce qu'il y a une sorte de, il y a une magie, quelque chose qui nous dépasse, que c'est une étoile. Un peu, c'est, je vais prendre l'exemple d'une marque, c'est une sorte de Louis Vuitton ou bien d'Hermès. La marque reste et elle restera finalement.
Ah, c'est un nom qui sonne et c'est vrai que c'est une marque qui reste, oui. Et puis il y a l'emblème de Flèche aussi, sa maison de disques.
Oui, mais les jeunes ne s'en souviennent pas de Podium. De
oui, mais Flèche quand même, quand il y a des rééditions avec des DVD ou surtout là il y a trois disques de remix qui sortent ces jours-ci. Je vais vous dire.
Oui, qui ont été faits par le fils, qui ont été produits par le fils.
Oui, bah, puis avec des ingénieurs du son, bon, ça c'est un boulot. Et croyez-moi, Ils voient le sigle flèche, et les gens aujourd'hui, ils vont voir le sigle flèche partout chez les disquaires. Enfin, maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus que les Fnac hein, comme disquaires. Bah, ils voient le sigle quand même. C'est comme un peu la langue des Rolling Stones. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais.
C'est une image. Et là où vous avez raison, c'est quelque part le simple sigle et le nom, c'est une marque.
Et
une marque de
finalement,
qualité, en tout cas.
Vous voyez ces portraits qui sont dans nos mémoires, les James Dean, les Claude François. Ils sont partis trop tôt, mais ils sont partis finalement en laissant comme empreinte dans notre mémoire qu'une carrière parfaite. Et c'est ça, est-ce que finalement Claude François aurait peut-être pu avoir des problèmes de gestion d'entreprise s'il avait été vivant dans les années 80, connaître une carrière en dents de scie, et ça aurait pas été pareil aujourd'hui? Est-ce que Claude François, aujourd'hui, aurait été, vous avez difficile, une sorte de Julien Clerc, voilà?
Non, je ne suis pas fakir ni devin, mais il était parti pour avoir une carrière en Angleterre. Avec Bordeaux, ça a commencé avec Bordeaux Rosé, qui vient d'un groupe anglais, qui chante en anglais d'ailleurs, avec des arrangements en reggae. Et il a fait le Albert Hall à Londres, hein, ça avait bien marché. Et puis surtout, il n'y a pas eu que Comme d'habitude qui a été repris aux États-Unis. Il y a eu... Parce que je t'aime mon enfant, hein, qui est devenu My Boy par Elvis Presley et Richard Harris, et puis aussi Plus rien qu'une adresse en commun, écrit par Alain Legovic alias un chant fort et Michel Pellet, ancien batteur de Jacques Dutronc. Vous voyez, il se passe des trucs. Hein. Et ce qui se passe, c'est que il aurait continué, enfin, il devenait un petit peu, entre guillemets, crooner. La voix changeait. Et on l'entend sur le dernier 33 tours dans la chanson, la reprise de And I Love You So, qui est devenu Je t'aime tellement, et on entend une voix de crooner, là, il y a un truc qui se passe, il y a une mutation dans la voix, et je pense qu'il serait devenu, il aimait la musique, hein, il aurait continué à faire quelques disques, il aurait fait beaucoup de choses comme ça dans cette lignée-là, et puis après, bon, peut-être que physiquement, bah, cela dit, regardez, Aznavour et Trainet ont duré très longtemps, il aurait peut-être fait un truc comme ça, parce qu'en fait, finalement, il a voulu être homme d'affaires, avoir des sociétés, les parfums, l'agence de mannequins, Podium, tout ça, pour prouver à la multitude, à la société, qu'il pouvait faire autre chose. Parce qu'on le prenait tellement, il se sentait tellement mal aimé, d'où la chanson, hein, et méprisé par les gens qui savent, par l'intelligentsia, qu'il a voulu leur prouver qu'il pouvait faire autre chose que ce que ces gens-là considéraient comme de la musique légère, ce qui n'était pas le cas.
J'ai toujours été convaincu.
C'était pas un homme d'affaires vraiment. À la fin, moi, les gens, les collaborateurs de Claude, ils me disaient, il faut qu'il fasse gaffe parce qu'il dépense beaucoup d'argent pour la scène et les éclairages, les ballons à la fin des concerts et tout. Ça coûte un argent fou. Il faudrait qu'il fasse attention parce que il y a des nouveaux qui viennent. Y a la vente des disques, elle monte pas toujours et quelquefois ça baisse un peu. Il faut faire attention. Mais il dit oui, d'accord, mais ça va aller mieux. Mais moi, ce que je veux, c'est faire plaisir à mon public. D'accord. Mais à quel prix? Et je suis, c'est la question qui tue, en fait, c'est que c'était pas un homme d'affaires exceptionnel, c'était plus un artiste, un musicien dans l'âme. Il avait la musique dans le sang. Mais c'était pas, je crois qu'à la fin, il aurait laissé tomber des affaires, il aurait confié ça à des gens de confiance comme, le PD, Alain-Dominique Perrin, là,
de Cartier,
bien sûr, à des gens, il aurait confié ça à des gens de cette envergure.
Oui,
voilà.
Mais est-ce que finalement, est-ce que Claude Carrère ou bien Eddie Barclay étaient des hommes d'affaires exceptionnels?
Bah, en tout cas...
Vous voyez, je fais une comparaison avec des gens de...
Ouais, moi, Barclay m'a toujours fait rigoler parce qu'il a fait des trucs vachement bien. C'était un pianiste de jazz aussi.
Il y a un point commun, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, Barclay. Moi, je trouve qu'il y a plus de points communs entre Barclay et Claude
qu'avec Carrère.
Carrère, moi, ce qu'il a fait chez là, j'aime pas. Bon, cela dit, il a fait une sacrée vedette, hein. Mais bon, c'est un drôle de bonhomme.
Il y a d'autres aussi. Enfin, bon, bref, on va parler de Barclay, alors. Voilà, on va rester sur Barclay, alors. On va aller sur cette comparaison. En tout cas, là, on était sur Claude François.
Et vous savez qu'Eddie Barclay a failli le signer. Il lui a fait signer un contrat en bas d'une piste de ski en 63, ou en 62, je ne sais plus. Et puis finalement, Claude avait pu penser qu'il avait déjà promis la signature à Philips. Alors c'était une galère pas possible. Mais enfin, bon, Barclay l'a bien pris parce qu'il s'est dit, bon, bah, il s'est gouré. Finalement, il a envoyé Franck Alamo dans les dents et Franck a bien marché aussi.
Merci
Voilà.
Olivier Delaveau
Mais j'espère que
de
ça a
parler de
été.
votre livre. Voilà, le livre d'Olivier Delaveau s'appelle Claude François, l'intelligence populaire en chanson, et il est publié aux éditions du Rocher. On en a parlé parce que c'est le 45e anniversaire de la mort de Claude François.
Et avec ça aussi, on voyage dans le temps parce qu'il y a la reproduction des pochettes étrangères des originaux.
Exactement.
Et
Merci.
ça, c'est pour les gens, c'est un bon voyage dans la musique.
Merci Olivier Delaveau.
C'est moi qui vous remercie en tout cas.